With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous avez 5 minutes? Totorina, un des chefs les plus brutaux que la mafia sicilienne ait connu, vient de mourir, emportant avec lui ses secrets et ses richesses. Mais cette mafia qu'il a si longtemps incarnée a changé. Elle est bien loin des images d'Épinal qu'on garde en tête. Elle a su se diversifier et profiter de l'ouverture des frontières. Réalisatrice et co-auteur d'un livre sur la mafia, Anne Véron nous décrypte ce qui est en train de se jouer au cœur d'une organisation toujours aussi secrète. Anne Véron, bonjour.
Bonjour.
Que représente la mort d'un personnage tel que Totorina pour la mafia italienne? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est un coup du sort? Ou est-ce que c'est un événement qui est anticipable comme dans n'importe quelle entreprise?
Alors, c'est un moment anticipable parce que le monsieur n'était pas très jeune et il était malade depuis un moment. Mais ça reste un événement important pour surtout la mort de Totorina, de ce chef mafieux-là. C'est le seul chef mafieux qui a déclaré la guerre contre l'État. Donc c'est un homme qui a réussi à mettre à feu et à sang non seulement la Sicile, parce que on parle de la mafia sicilienne, mais le pays entier, et qui a tué des journalistes, des femmes, des enfants, des magistrats. Donc ça reste symboliquement pour l'Italie un sujet extrêmement... disons que Totorina, c'est un peu le Pablo Escobar d'Italie, on peut dire, en quelque sorte.
Il pesait encore quelque chose dans l'organisation?
Non, parce que les mafieux ont un régime carcéral particulier, s'appelle le 41 bis, où ils sont à l'isolement quasiment total. Donc ils ont, pour justement empêcher, parce que jusqu'à dans les années 90, on se rappelle des prisons de Sicile où les mafieux rentraient et sortaient comme ils voulaient, où ils faisaient des dîners, où ils recevaient qui ils voulaient. Donc il y a un régime carcéral spécialement fait pour eux, où ils sont à l'isolement total, quasiment. Ils ne pouvaient plus concrètement passer vraiment beaucoup de messages à l'extérieur et régner sur la mafia et donner des ordres. Mais symboliquement, c'est très important. Symboliquement, il reste le dernier chef, le grand chef. Et son comportement, il a toujours réussi à quand même véhiculer une certaine image de la prison, justement en gardien de l'omerta, en se comportant en grand chef jusqu'au bout. Et ce qui a été... Donc symboliquement, ça reste le grand chef de la mafia qui est mort aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, il y a une place à prendre, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est important au niveau de l'organisation et c'est symboliquement important pour l'Italie parce que c'est un moment qui fait revivre aux Italiens énormément de moments dramatiques de son histoire.
Comment ça s'organise la succession dans ce genre d'organisation?
On ne sait pas s'il y a un grand chef aujourd'hui. La mafia sicilienne, ça a toujours été jusque dans les années, jusqu'à ce que Totorina arrive, ça a toujours été plus ou moins une démocratie. Ça a été plus ou moins avec, il y avait la cupola, qui est une commission des grands chefs territoriaux, parce que c'est une mafia territoriale. Donc tous les grands chefs de chaque région se réunissaient une fois par mois, ou on ne sait pas exactement à quelle fréquence, mais se réunissaient régulièrement pour justement savoir ce qu'ils allaient faire de l'organisation et prendre des décisions ensemble. Totorina est un Corleone, vient de Corleone, du village de Corleone, qui est un endroit important pour la mafia, qui a toujours été un territoire important de mafieux, où il y a toujours eu des chefs qui ont été dans cette commission. Et Totorina, qui était un peu exclu de tout ça, qui était un homme un peu mis de côté par cette aristocratie mafieuse, etc., a pris le pouvoir par la violence et s'est autoproclamé chef. Donc en fait, concrètement, il y a un grand chef depuis Totorina. La mafia n'est plus ce qu'elle était avant. Aujourd'hui, les magistrats, les forces de l'ordre ont du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. On ne pense pas qu'il y ait un grand chef en ce moment. Déjà parce qu'il ne pouvait pas être remplacé tant qu'il n'y avait pas la mort de Totorina, tant que Totorina était encore en vie. Et d'autre part, parce qu'on ne sait pas, depuis Totorina, depuis toute sa violence qu'il a instaurée, les forces de l'ordre, la magistrature, a donné énormément de coups à Cosa Nostra et a arrêté énormément de chefs. Donc la mafia sicilienne ne se porte pas très bien. Elle est pas, c'est plus qu'elle était, Cosa Nostra, c'est plus qu'elle était. Ce qui est la mafia la plus importante aujourd'hui, c'est l'Andrangheta, sa voisine, la Calabrese, qui a profité de la faiblesse de Cosa Nostra. Donc aujourd'hui, c'est très difficile, ils ne savent pas. pour le moment, on dit qu'il y a le silence. Et quand il y a le silence, c'est que les choses vont bien. C'est que les choses, c'est qu'il y a un équilibre. C'est qu'il y a un chef, ou que, enfin, pas un chef dans ce cas-là, mais que les familles s'entendent entre elles. Donc, pour le moment, c'est le silence. Donc, il n'y a pas de guerre entre clans. Il y a un personnage important qui est un des hommes les plus recherchés d'Europe, qui est parmi les 5 hommes les plus recherchés d'Europe, qui s'appelle Matteo Messina Denaro, qui serait en tout cas l'homme fort de la mafia aujourd'hui, de la mafia sicilienne. Mais il vient de Trapani, qui est à la partie occidentale, en face de la Tunisie, et qui a toujours été une partie, un territoire important de la mafia, mais où les spécialistes disent que difficilement un homme de Trapani peut gouverner sur les palermitains ou sur les corléonais. Donc, en tous les cas, c'est probablement l'homme le plus fort de la situation, qui était un allié de Totorina et des Corleonais. Mais de là à dire que c'est le grand chef aujourd'hui, c'est encore difficile à dire. Mais un policier me disait, et pas seulement un policier, d'ailleurs, il disait, on sait toujours, nous, on a des informations toujours 10 ans plus tard. On peut vous expliquer ce qu'il y avait il y a 10 ans. Expliquer ce qu'il y a aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que ça reste une organisation secrète. Mais malgré tous les repentis et la faiblesse de l'organisation aujourd'hui, ça reste une organisation secrète. Donc savoir ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore difficile de comprendre.
Ce qu'on a l'impression, c'est que l'organisation n'a pas forcément évolué avec son temps, qu'elle est restée à l'image de ce chef-là.
Bah non, justement pas. Justement, peut-être que c'est notre imaginaire qui est resté lié à ce chef. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on sait toujours 10 ans plus tard. Donc, on a toujours 10 ans de retard sur ce qui se passe. Donc, on reste avec une image d'il y a 10 ans de la mafia sicilienne. Aujourd'hui, la mafia, elle évolue. Les mafias, elles évoluent beaucoup avec notre temps. Aujourd'hui, justement, c'est plus la mafia de Totorina. Et même juste le caractère des mafieux n'est plus le même. Parce que quand on voit Totorina ou quand on voit Provenzano, qui étaient des hommes qui faisaient pas du tout ostentatoire, pas du tout, quand on pense à toute la richesse qu'avait Totorina, tout l'argent qu'il a, dont on ne sait toujours pas où il est, et qu'on voit qu'on passe devant sa maison à Corleone, ou qu'on voit le monsieur, on peut pas imaginer une seule seconde que c'est un homme extrêmement riche. Aujourd'hui, les mafieux sont beaucoup plus ostentatoires, ils aiment plus l'argent, comme partout. Aujourd'hui, ils ont envie de mettre sur Facebook, de montrer leur belle voiture, de sortir. Donc, c'est toute une... Justement, la mafia a complètement changé. C'est pour ça que c'est très compliqué de savoir aujourd'hui ce qu'elle est en train de devenir. Et c'est plus une mafia qui est dans le bâtiment ou dans les travaux publics, etc. Parce qu'il n'y a plus d'argent public qui est envoyé en Sicile. Dès l'époque, des grands travaux sont passés. Donc, ils ne sont plus là-dessus. La drogue, la mafia sicilienne, elle a un très petit rôle. Il n'y a plus grand-chose. Et déjà parce qu'ils étaient sur l'héroïne à l'époque, et aujourd'hui c'est la cocaïne, et que la cocaïne, c'est un quasi-monopole de l'Andrangheta, la voisine, la Calabrese, qui gère 80% de la cocaïne dans le monde, quasiment. Enfin, c'est vraiment une... Donc la mafia sicilienne, aujourd'hui, elle n'est ni trop dans la drogue, ni dans le travaux publics, donc elle évolue. Elle a fait énormément d'argent dans les années 70-80, donc elle a beaucoup d'argent à investir, elle est dans la finance. Aujourd'hui, un mafieux, on peut le rencontrer plutôt à Milan. Son fils a fait des études à la Bocconi, qui est l'équivalent d'HEC à Paris. Et donc c'est très compliqué. C'est vraiment justement, elle a évolué, et c'est justement pour ça que on peut plus penser à la mafia de Totorina aujourd'hui. On peut plus, les forces de l'ordre ne peuvent plus s'attaquer à la mafia comme ils s'attaquaient à la mafia de Totorina à l'époque, parce que c'est tout un autre changement. C'est beaucoup plus avec des flux financiers. C'est une mafia plus entrepreneuriale. Et donc justement, il faut surtout pas rester avec l'image qu'on a un peu folklorique et arriérée de cette mafia que représentait Totorina. Si on veut vraiment voir la mafia aujourd'hui, elle est au nord, elle est là où il y a de l'argent, elle est en Europe aussi. Pas que dans le nord de l'Italie, les frontières sont ouvertes. Elles vont là où il y a de l'argent. En Sicile, c'est une des régions les plus pauvres d'Italie, il n'y a pas d'argent. C'est pas là où ils vont faire. Avant, ils y restaient aussi parce que pour la drogue, pour l'acheminement de la drogue, c'était intéressant. Et pour les travaux publics, où il y avait énormément d'argent pour reconstruire le Sud et pour développer le Sud, et ils avaient la main mise là-dessus. Aujourd'hui, l'argent, il n'y a plus d'argent qui circule du tout là-bas. Donc ça se passe plutôt au nord et dans le reste de l'Europe.
Et est-ce qu'il y a toujours des liens aussi forts avec la politique ?
Un magistrat, un des grands magistrats calabrais, Calateri, disait que aujourd'hui, c'est plus le mafieux qui va voir le politicien, c'est le politicien qui vient voir le mafieux pour avoir des votes. Donc, quand on pense à Matteo Messina Denaro, qui est le chef mafieux le plus important du moment en Sicile, il a quand même tué des centaines de personnes. Il était un allié de Totorina, donc il a fait partie des commandos qui ont tué Falcone et Borsellino, etc. C'est un homme très dangereux. Je jure, ça fait plus de 25 ans qu'il est en cavale, et on ne le trouve pas, et il reste quand même sur son territoire. c'est compliqué à imaginer sans complicité à un certain niveau.
Est-ce que aussi l'image localement de la mafia a changé ou est-ce qu'elle garde cette espèce d'aura ?
Ma génération qui a vécu Falcone et Borsellino quand on avait 14 ans, qui a fait des études, qui s'est ouvert au monde, qui a voyagé, qui a eu le temps, cette classe-là n'est absolument pas ne voit plus l'avantage non plus d'être en lien avec cette organisation et lutte contre. Mais il faut pas oublier que ça reste quand même une région pauvre et où il y a peu de travail, où les gens ont peu l'occasion de sortir vraiment de leur environnement et vivent de manière extrêmement locale. Enfin, c'est-à-dire, il y a des personnes, quand on rencontre les personnes dans les quartiers, c'est ces trois rues, et ils restent dans ces trois rues. Je jure déjà d'aller dans le centre de Palerme, à cinq rues de là où ils sont, c'est déjà pour eux aller dans un autre monde. Et pour ces personnes-là, non. Pour ces personnes-là, payer le racket, quand on leur demande, mais vous payez le racket, ils disent, mais enfin, les impôts que je paye à l'État, c'est pas du racket, quelle est la différence ? Et en effet, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont en retour ? Ça, c'est le problème aussi du fait que l'État italien n'est pas fort et avec en moment de crise, c'est encore plus difficile de montrer son autorité. Et ça, quand on parle dans les quartiers, quand on va voir les commerçants, c'est encore beaucoup comme ça. C'est encore beaucoup comme ça.
Très bien, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Binge audio.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.